Eh bien, nous sommes en train de terminer notre petit parcours sur le mariage, sa responsabilité, sur l'homme et sur la femme. Et la dernière fois, on avait regardé les petits accidents de parcours ou les guérisons du parcours de la relation, de la commune qu'il y a entre un homme et une femme. Et on avait vu donc la dernière fois que beaucoup de choses qui font que beaucoup d'événements, beaucoup de dans le parcours de la communion de l'homme et de la femme, dans le mariage en particulier, mais c'est vrai aussi, je pense, dans toutes sortes d'autres parcours humains des chrétiens, qui tiennent aux manières dont on avait reçu l'amour du Père et de la Mère depuis qu'on est conçu. Alors, grâce à la sponsalité, grâce à la grâce que Jésus donne dans la communion des personnes, dans l'humanité intégrale, c'est-à-dire dans ce qui fleurit à l'intérieur de la communion de personnes entre un homme et une femme, avec la grâce de Dieu et sa bénédiction, et il y a un parcours de guérison, de délivrance, de libération de tout ce qui s'était noué depuis la conception. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Les difficultés, les croix, les épreuves, les problèmes qu'il y a, tout ça, dans l'amour, la fidélité, la fécondité, l'amitié, etc., ne tiennent pas seulement que aux blessures qui nous viennent de la conception, de l'enfance, de l'adolescence, puis de la jeunesse. Il y a aussi évidemment d'autres difficultés qu'on n'avait pas évoquées la dernière fois. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais pourtant c'était sujet, on n'a pas eu le temps. Mais je voudrais au moins avant d'arriver sur le fruit du sacrement de mariage, sur le fruit de la sponsalité, le fruit divin, je voudrais évoquer toutes ces difficultés. Parce que vous voyez, finalement, il y a plein de gens qui sont mariés, il y a plein de gens qui ne sont pas mariés aussi. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? On arrive au niveau spirituel que Dieu veut dans l'amitié sponsale. Qui arrive à ce niveau-là? Finalement, pas grand monde. Sans doute, pas grand monde. C'est vrai. Qui est-ce qui arrive au niveau intérieur, extérieur, simple, concret, mais en même temps divin, de Anne et Joachim, par exemple. Sainte Anne de Saint-Joachim. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a toutes ces blessures, il y a toutes ces difficultés, cette immaturité. Donc, on avait bien dit que la bénédiction de Dieu dans l'amour spontané vient évidemment aider à réparer ce qui empêche le vol libre du cœur, de l'âme, de l'esprit dans l'union conjugale. Et donc, quelquefois, il faut du temps, il faut un certain temps, ou alors il faut de la lucidité. C'est un petit peu, quelque part, dommage, et c'est un petit peu notre humiliation, de savoir que le sacrement de mariage, au lieu d'aller jusqu'au bout de lui-même, d'abord commence par guérir des blessures, commence par refaire le chemin, par reconstruire les barrages, là où ils doivent être reconstruits. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu comme dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne normale et usuelle. Par exemple, on peut vivre des sacrements, mais si on a des fautes, si on a des imperfections, alors la grâce surnaturelle, la grâce transformante de Jésus, Saint-Esprit, la grâce sanctifiante, avant de nous transformer, de nous diviniser, et bien, elle remet en place, par sa miséricorde, par sa guérison, elle remet en place des choses qui ne sont pas en place, en particulier les vices, les tendances mauvaises. les blessures aussi, les imperfections. Alors c'est un peu notre humiliation chrétienne, quelque part, de se dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu qui va me réparer, et puis tant pis, je ne suis pas capable encore d'aller jusqu'au bout du mariage spirituel pour faire rayonner, surabonder les effets tout à fait miraculeux de la grâce. Est-ce que je suis capable de ressusciter des morts, guérir les aveugles et faire tomber les idoles partout où je passe, comme ça, silencieusement? Non, pourquoi? Parce que la grâce, elle commence d'abord par réparer les choses dans mon monde intérieur avant que par surabondance, ils viennent rayonner sur le monde de la création qui nous est confié. Donc pour le mariage, c'est un petit peu pareil. Il y a quelque chose de semblable, mais encore qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une présence réelle, une présence sacramentelle. Alors, parmi les difficultés, je voudrais en évoquer quelques-unes très rapidement, parce que c'est pas mon sujet de ce soir, mais enfin quand même, il faut quand même l'avoir fait au moins une fois. Il y a quelquefois des choses qui ne fonctionnent pas. Entre dans la famille, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est immature sur le plan de la chair, sur le plan de la sexualité, pas seulement parce qu'on est immature sur le plan spirituel, la signification spontanée du corps, pas seulement à cause de ça, pas seulement à cause de ce manque d'amour qu'on porte encore comme écorché vif depuis l'adolescence, par exemple, pas seulement parce qu'on a une crise d'identité, ça, c'est des choses qu'on a évoquées la dernière fois. Hein, on a une tendance, par exemple, plutôt homophile, dans 80% des cas de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça, à peu près. Les gens ne sont pas normaux. Alors, une impuissance, ça, c'est des choses qui se guérissent, ce sont des maladies, qui guérissent d'ailleurs très rapidement, contrairement à ce qu'on croit. La guérison est très très rapide, si tant est, bien sûr, qu'on le veuille bien. Voilà. Mais il y a d'autres difficultés qui viennent du fait qu'on fait des choses, qu'on engage notre vie commune, qu'on engage notre amitié, qu'on engage notre unité spensale sur des voies qui ne sont pas correctes, qui vont dans une autre direction, qui ne vont pas dans la bonne direction, qui empêchent le sacrement de venir pousser et faire fleurir la fleur, l'arbre, le fruit. Voilà. Alors ces difficultés, bon, vous les connaissez, encore qu'on ne les connaît pas toujours toutes, parce qu'on s'y habitue, on trouve que c'est normal, tout ça. Alors, je voudrais quand même, comme ça, rejeter quelques-unes, au fur et à mesure qu'elles ne viennent pas. Bon, la première, la première difficulté, c'est qu'on veut vivre bien. On veut vivre bien, et du coup, on ne vit pas d'une manière réaliste. Donc l'homme et la femme s'unissent pour vivre avec le capital de vie que Dieu leur a donné. Et pas avec un capital de vie que Dieu ne leur a pas donné, ou qu'ils n'ont pas, ou que le fruit de leur travail ne leur donne pas. Alors, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés énormes au bout de 10, 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils font des emprunts, des crédits pour le chenal et pour la voiture, ceci, cela. Et finalement, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Au bout de 10, 12 ans, c'est forcément, ça roule, et au bout de 10, 15 ans, on est coincé. Voilà. 28% des divorces viennent de cette cause. Parce que si on vit d'une manière ensemble, dans la maison, dans le Beit Hamikdash de la sponsalité, n'est-ce pas ? Le temple saint de la sponsalité, d'une manière qui n'est pas réaliste, c'est-à-dire c'est pas en fonction de nous, mais en fonction de, voilà, c'est la banque, c'est le crédit, donc en fait, quand c'est la banque, c'est qui paye ? En fait, c'est les Africains, c'est les gens qui sont piqués par... c'est eux qui payent, c'est les pauvres qui payent, qui sont piqués. Et nous, voilà, on arrive à avoir ces choses-là. Mais peu importe, au bout de 10-15 ans, la banque, elle nous réclame. Et finalement, on est coincé, on tombe en faillite financière. Et évidemment, c'est toujours la faute de l'autre, n'est-ce pas? Voilà, 28% de divorce. Il faut vivre pauvrement, il faut vivre simplement, il faut vivre avec ce qu'on a. Il faut travailler, quoi. C'est sûr, il faut travailler pour ça. Voilà, ça c'est la première chose. Il faut rappeler ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut également ne pas suivre l'esprit du monde. Si on suit l'esprit du monde, on ne suit pas un esprit d'amour, de vérité et de lumière. Et quand on suit pas l'esprit du, quand on suit l'esprit du monde, et ben on se dit, oh mon Dieu, il ne faut surtout pas... il faut être moderne, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et donc, voilà, et on va du coup utiliser des moyens modernes pour réguler la fécondité. En particulier, on va par exemple utiliser des œstrogènes, vous voyez, pour bouleverser les cycles féminins et les interrompre finalement. Donc. Et le problème est, ou alors on va faire. On va encore recourir à des moyens encore bien différents de ceux-là, sur lesquels je vais venir tout à l'heure. Bon, mais par exemple, quand on prend par exemple la pilule, comme que font les œstrogènes? Eh bien, ils introduisent dans le corps de la femme une interruption du cycle, ou du moins une dérégulation du cycle. Si bien que la personne, la femme, la signification sponsale du corps féminin est dérégulée. Elle ne suit plus des règles de vitalité lumineuse, intérieure, déjà physiologique et biologique, lesquelles sont en corrélation immédiate avec aussi l'intériorité spirituelle de l'amour, du don et de l'accueil vu du côté vécu par la femme. Le résultat, c'est que du coup, il est strictement impossible, d'après les lois de la nature, de réaliser l'unité sponsale. Vous comprenez? Parce qu'il y a une unité sponsale, mais il faut qu'il y ait la signification sponsale du corps féminin. Il faut qu'il y ait la signification sponsale du masculin. Mais si il y en a un des deux qui manque, par un simple dérégulation mécanique ou chimique, hein, la femme n'est plus dans un rythme de gratuité, si bien qu'il est strictement impossible de se donner d'une manière qui est propre à la femme. Voilà. Allez. 33% de divorce. Plus que pour le crédit. Oui. Parce qu'évidemment, si au bout d'un certain temps, au bout de 10, 15, 20 ans de ce régime, pendant 20 ans, vous vous rendez compte, il n'y a jamais eu, on ne s'est jamais alimenté, on ne l'a jamais trouvé, dans les sources limpides de l'unité sponsale, puisqu'on n'a jamais pu la réaliser, et bien évidemment, on s'épuise. La communion des personnes s'épuise sur le plan humain. Et il y a une troisième raison, et donc il faut, vous savez, quand les gens sont fiancés, il faut leur dire, et ils doivent s'engager là-dessus. Si quelqu'un ne s'engage pas là-dessus, normalement, il ne faut pas lui donner sa commande mariage. Mais il y en a d'autres qui pratiquent. Ils écoutent les médecins, non, c'est vrai, vous en avez déjà trois, vous rendez compte, trois enfants, c'est épouvantable. Comment vous allez faire? Et si vous en avez par malheur un quatrième? C'est horrible, je ne peux pas vous permettre une chose pareille, le gynécologue arrive, et hop, on vous met vite un stérilet. Ou alors, bon, il y a aussi des fausses couches naturelles, il y a des difficultés, on est angoissé, etc. L'enfant, il meurt avant de naître sans qu'on ait rien fait spécial. Ou alors, il y a des... Parce que on refoule l'inquiétude. Mais quelquefois, l'inquiétude n'est pas refoulée et donc il y a aussi des avortements libres. Bref, il va y avoir des enfants qui ne vont pas naître. Quel que soit le stérilet, je vous rappelle, est toujours abortif. C'est bien que si quelqu'un prend la moyenne française, vous voyez, pour la femme française, je crois que pour le stérilet, sauf erreur, c'est 4 ans et demi de moyenne par femme en France. C'est énorme. Parce que si vous avez qu'à calculer, ça fait 30 millions de femmes en France. Ça. vous savez bien que le stérilet, ça, alors évidemment le gynécologue va toujours vous dire, mais c'est pas du tout abortif, ça empêche la fécondation, etc. C'est totalement faux, puisque le stérilet, quel qu'il soit, hein, quel que soit même les meilleurs, même si comment il s'appelle, le très sophistiqué, la nouveau, bon, il n'empêche pas la fécondation, il est évidemment beaucoup plus perméable à la semence masculine que, par exemple, un préservatif qui lui-même est déjà assez perméable. Dit-on, n'est-ce pas, quelquefois. Donc, alors, vous rendez compte, c'est une espèce de parapluie qu'on coince dans le terrine. Bon, très bien. Mais vous savez, sur les parois, vous inquiétez pas, un spermatozoïde, quelquefois, il passe même par un préservatif. Vous voyez, par les petites pores, par les micro-pores du préservatif. Un spermatozoïde, il peut passer par travers ça. Il suffit qu'il y ait deux pores ensemble. Vous voyez ? Alors, vous rendez compte, un stérilet, et il en passe des millions. Et donc, à chaque fois, il y a une fécondation. Et évidemment, qu'est-ce que fait le stérilet ? Il empêche l'implantation dans la paroi, l'implantation ordinairement dans ce qu'on appelle la natation au 14e jour. Et l'enfant, il existe. L'enfant, il est là. L'enfant, il vit. L'enfant, il aspire. L'enfant, il dit oui. Et voilà qu'au bout de 5 ans, 6 ans, eh bien, sans le savoir, parce que je suis pas au courant, j'ai pas fait attention, j'ai jamais pris conscience de ça, eh bien, entre l'homme et la femme, il y a 7, 8, 15 enfants qui crient, disant « moi je suis là », qui crient leur présence. C'est à la fois un cri de vie, d'espérance, de soif et de mort. Alors, on s'étonne après. Et après, on se demande comment ça se fait qu'il y a un malaise entre nous, etc. Mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui relève de la fécondité nuptiale et qui pénètre à l'intérieur de la communion donc, de l'homme et de la femme comme un cri de mort. Alors du coup, vous vous rendez compte ce que ça donne comme insécurité dans le rapport mutuel. C'est incroyable. Évidemment, le divorce arrive au grand galop. Ordinairement, c'est pas tout de suite. Ordinairement, la femme va chercher son bien ailleurs. Puis après, c'est le divorce. Même les meilleurs, ils vont chercher leur bien ailleurs parce qu'elles ne se comprennent pas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui a tué. Il y a quelque chose qui a tué leur source de vie. Et donc. Et voilà. Et donc l'adultère souvent s'enracine dans cette raison-là. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut vraiment, si on en prend conscience vite, il faut demander à tous ces enfants pardon. Il faut dire, mais mon Dieu, vous savez pas vous exciter, c'est merveilleux, maintenant je sais que vous existez. Maintenant vous êtes là, il faut avoir l'affection pour eux. Pour remercier le bon Dieu de nous les avoir donnés. Pour demander supplier aux anges gardiens, Sainte Vierge, de nous dire comment il faut les appeler. Il faut célébrer la messe pour eux, il faut célébrer la messe nuptiale ensemble, et en les réintroduisant dans le nid de l'amour, de la lumière, et puis les aimer, et puis ils font partie de la famille, et puis voilà. Donc l'affaire est résolue, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus d'adultère après. Voilà, bon, donc il y a, vous voyez, ce genre d'autres types de difficultés. Lorsqu'on mène une vie commune, on fait une communauté. On n'est pas seulement deux, on est trois. Aristote dit qu'à partir du moment où on est trois, vous avez bien compris qu'à partir du moment où il y a unité, parce qu'on s'installe, on n'est pas deux, on est trois. On est trois, sans compter qu'avec le sacrement et le Seigneur. Donc on est quatre, Jésus. Et Aristote dit qu'à partir du moment où on est trois, alors, on ne peut pas rentrer en communion, en coopération ensemble, sans une loi, sans une règle. C'est une communauté. Une communauté, elle a une règle commune, elle a des jalons, si vous voulez. Elle a une spiritualité. Elle adopte sa vie dans une certaine spiritualité, laquelle implique une direction à prendre, laquelle implique des moyens. Et on appelle ça, vous voyez, par exemple, dans la vie monastique, dans le Carmel, ou dans un petit prieuré de 5 ou 6 frères, ou, etc. Bon, eh bien, il y a une il y a une règle. Et une des règles, dans toutes les règles de vie commune, il y a évidemment le principe de régulation de la liberté et de la transparence. Parce que si entre nous, il n'y a pas quelque chose qui fait que on est d'accord au départ pour faire effort tout le temps et jusqu'au bout, pour qu'il y ait délicatesse et compassion, n'est-ce pas ? Eh bien, à un moment donné, il n'y aura ni délicatesse, ni compassion. Alors c'est quoi ? Comment ça se passe, par exemple, dans une communauté ? C'est une communauté tous les jours. Vous savez, je ne sais pas, au monastère, n'importe quel monastère. Tous les soirs, après le repas de midi du soir, ça dépend, quelquefois c'est après l'office de verbe, il y a le chapitre. Vous avez tous été dans ce monastère de Serrabonne, de Toronnet, de Sénanque et tout ça. Et vous avez visité, on visite le dortoir des moines, on visite le réfectoire, on visite le cloître. Et puis il y a la salle de chapitre. La salle de chapitre, c'est là où tous les soirs, tous les membres de la communauté viennent et font un exercice de charité communautaire. Et alors, ils vont tous les soirs mettre les choses sur la table. Ils vont demander pardon s'ils ont fait quelque chose qui n'est pas chouette, qui n'est pas correct. Ils vont demander pardon devant tous les autres. Et les autres, bon. Et chacun aussi va demander s'il se sent capable de le recevoir. Après avoir demandé pardon, il va supplier les autres de lui dire s'il a vu quelque chose qui était ennuyeux et sur lequel il pourrait se corriger. Alors si quelqu'un dans la communauté l'aime bien, il ne faut pas que ce soit celui qui ne peut pas le piffrer, hein. Si quelqu'un l'aime bien, alors il se met à genoux et dit, frère, tu sais, voilà, apparemment, à chaque fois que tu passes devant un frère, à chaque fois on te voit faire un tic et une grimace. Tu t'en rends pas compte parce que tu es tellement habitué à ça, mais là, une grimace, on te demande pourquoi tu fais la grimace. Alors fais attention parce que ça se voit trop, quoi. Alors peut-être c'est plus. Même sans sourire, au moins pas faire de grimace. Du coup, la personne réalise, mon Dieu, mais c'est vrai, ça se voit. Alors, très bien, donc il se rétablit, il s'améliore. Oui. Et vous voyez, ça s'appelle une règle de délicatesse et de compassion. C'est-à-dire, si on a une remarque à faire, on la dit tous les jours, mais on la dit avec délicatesse et au moment où il faut. Et enfin, compassion, parce que, en même temps, on ne dira pas quelque chose par miséricorde si la personne n'est pas capable de le recevoir. Voilà pourquoi on fait toujours une. Par exemple, dans la vie monastique, il est strictement exclu de faire une remarque à qui que ce soit dans la communauté si ce n'est pas dans le cadre du chapitre. Tout le reste du temps, c'est que des louanges, des remerciements, de l'affection, de l'admiration et la contemplation du prochain. Et au moment du chapitre, oui, avec délicatesse, vous voyez. Donc la compassion. Délicatesse et compassion. Compassion, du coup, on ne parle. La compassion dit. Pour la compassion, on a cette règle aussi. C'est qu'on ne fait pas de remarques à sa moitié sponsale. Et jamais en public. C'est toujours intime à la communauté. Vous voyez ? C'est exclu, vous voyez, en public ou à un tiers, de faire des remarques à sa moitié sponsale. Mais par contre, il faut lui dire, il faut quand même le lui dire. Et à un moment donné, il faut, tiens, il faut peut-être qu'on fasse chapitre, n'est-ce pas ? Alors normalement, il y a une règle, on s'habitue à ça, on doit parler, pas parler tout le temps, parce que si on parle tout le temps, on s'habitue à faire la remarque, puis 5 minutes après une autre, 10 minutes après une autre, ça c'est exclu. C'est un manque de délicatesse, c'est un manque de compassion. On s'habitue, vous savez, parce qu'à force de vivre ensemble, alors, on s'en balance, vous savez, des trucs à la figure. Et ça, c'est exclu, parce que le vieil homme, il revient au grand galop, souvent. Hein. C'est sûr. On n'arrive pas à voir cette... expiration de l'ampoule. Très bien. Il faut donc parler. Il faut donc parler. Et c'est là-dessus que, voyez, il faudrait dire. Si on a une, en particulier, des tentations. Si on a des tentations, eh bien on le dit. C'est pas très compliqué de se donner des petits signes. Si jamais j'allume une bougie, le soir dans la chambre, ça veut dire qu'il faut que tu t'occupes de moi. Parce que j'ai des tentations. Il faut avoir des codes comme ça, des petits codes. Délicatesse et compassion, il faut se trouver des codes. De toute façon...
Ah oui, c'est ça.
Faut pas rester une semaine sans avoir prévu un moment tranquille où on parle tranquillement à deux. On ne laisse pas passer 9 mois sans partir au moins 2 ou 3 jours, tous les deux seuls. On confie les enfants à la tante, à la grand-mère, ce que vous voulez, mais tous les deux tout seuls. On ne quitte pas la maison familiale plus de 22 jours, même pour des raisons professionnelles. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas. Le marin qui part, il revient... Bon, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si quelqu'un, pour des raisons professionnelles, doit partir et quitter la maison, il ne faut pas qu'il quitte la maison sans téléphoner au moins une fois tous les 2 jours, si ça doit durer plus longtemps qu'un cycle. Ça, c'est des règles. Il y a des tas de règles de prudence comme ça. Ce n'est pas des règles de prudence, c'est des règles de douceur, de délicatesse. C'est indélicat, autrement. Là, à force d'être indélicat, on devient moins chaste. Moins chaste, on est moins transparent. À force d'être moins transparent, on devient plus grossier. À force d'être plus grossier, on n'est plus du tout dans l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, est-ce tout de même impossible de réaliser l'unité spontanée? C'est sûr. J'avais évoqué l'autre fois aussi ce fait que il y a quelque chose qui coince aussi. La libre circulation et le vol libre de l'unité spontanée, c'est quand on travaille sur les énergies. Vous voyez, si vous allez voir, aller à un médecin, faire attention aux médecins aujourd'hui, que ce soit les gynécologues, les kinésiologues, les autorologues, les harmoniologues, les gigologues et tout ça. Les astrologues. Il faut faire attention. Faire attention parce qu'on se manipule dans le fluidique et compagnie. Et vous le savez très bien, à chaque fois qu'on se fait manipuler dans le fluidique, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, voilà, catastrophe encore aussi, bien sûr. Il y en a un qui rentre dans une loge, dans un atelier, qui rentre du coup en cercle initiatique. Je ne vous dis pas. Du coup, forcément, il y a des régressions. Il y a des régressions qui s'opèrent. Il y a des régressions qui s'opèrent automatiquement, puisque forcément, la partie spirituelle de l'âme, à travers tous ces exercices fluidiques, d'énergie, métapsychique ou ésotérique, ou d'astral, et bien qu'est-ce que la partie spirituelle se dessoute du corps. Et du coup, je me retrouve, moi, marié et femme, mais, voilà, de temps en temps, on réalise l'union des corps, quelquefois, on est quand même cordialement, affectueusement unis l'un à l'autre, il y a une espèce de complicité, mais il n'y a jamais d'unité sponsale. Pour qu'il y ait l'unité sponsale, il faut qu'il y ait l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc il faut vraiment qu'il y ait la conquête, spirituelle du cœur et la signification responsable du corps dans l'extériorité du corps, une imprégnation de toute la personne. Et dès qu'on rentre dans le métaphysique, on dessoude l'unité de la personne par un phénomène de régression. La partie spirituelle de l'âme se régresse et quitte l'exercice physique proprement dit. Alors l'unité responsable est impossible. Il y aurait mille encore autres problèmes. Vous connaissez sûrement mieux quoi, mais enfin, disons que c'est les principaux. C'est les plus. Il y en a un, bien sûr, que le père, le bon vieux père, Emmanuel, me disait à l'époque. Et c'est ce que dit le droit canon. C'est le droit canon sur le mariage, je dis pas grand chose. Rien. Il y a deux finalités dans le mariage, c'est la fécondité et l'unité des deux époux. Avec les enfants, et puis l'unité des époux, c'est les deux finalités du mariage. Mais vous savez que le droit canon inscrit une règle. C'est un droit, il y a un droit, une loi. Et quand vous êtes marié, vous passez devant l'autel, devant Dieu, devant les hommes, vous mettez l'alliance. Et la seule chose que spécifie le droit canon, ça va vous paraître peut-être incroyable, mais c'est ceci. C'est à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'usage de votre corps. Donc la femme n'a plus le droit d'usage de son corps. Il appartient à son mari. Et le mari n'a plus le droit d'usage sur son corps, lui. Le droit d'usage du corps du mari appartient à la femme. La femme qui use du corps du mari. Le mari a le droit d'user du corps de la femme. C'est un droit d'usage. C'est pas très beau, hein. Mais c'est le langage du droit, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelquefois on voit des gens, et ça c'est tous les mariages après 20 ans. Hein. Après 20 ans de mariage, c'est des mariages qui disloquent. Voilà pourquoi, après 20 ans, 25 ans. Et parce que la femme, elle dit moi, ça me plaisait beaucoup, l'union conjugale, tout ça, je l'aime bien, tout ça, mais maintenant, je n'ai plus envie. Alors oui, on est ensemble, on est marié et femme, mais les privautés, n'est-ce pas, l'union... Non, ça me plaît moins. Eh bien, c'est pas à toi d'en discuter. Parce que le droit d'usage de ton corps ne t'appartient pas. Donc c'est pas si tu as envie. C'est pas parce que tu as envie, non, hein, parce qu'on voit comme ça des ah moi, je suis un peu froide, tout ça, donc ça fait 5, 6, 7 ans que, alors que chambre à part, puis voilà. Non, on ne fait pas chambre à part, puisque le prêtre, il doit dire la messe tous les jours. Voilà, le prêtre, voilà, et je connais certains prêtres comme ça aussi, je le vois. J'en ai entendu au téléphone l'autre jour, incroyable. Il dit, voilà, moi, il s'est donné à fond auprès des malades, auprès des hôpitaux, des prisonniers, des pauvres, etc. Il a dit, moi, à 55 ans, je prends ma retraite. Alors maintenant, il a 60 ans, là, ça fait 5 ans. Il dit, l'évêque, je ne veux pas vous entendre parler. Moi, c'est fini, j'ai donné. Voilà, il a pris sa retraite. Attends, il va se retrouver au jour du Seigneur. Il dit, mais attends, c'est la fin qui compte, c'est pas le début. Il n'y a pas de retraite. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu t'appartiens pas. Tu as donné ta vie à Jésus, à l'Église et aux autres. Et donc tu ne vas pas prendre ta retraite pour pouvoir garder ta TV et puis avoir ta gouvernante et compagnie. Tu vois. Et non. Alors dans le mariage, c'est pareil. Il y a beaucoup de... C'est quelque chose qui est très libérateur, remarquez bien. Vous voyez, la sagesse chrétienne est très belle. C'est pas du tout le style de Sartre, hein. C'est pas très existentialiste de dire ah bon, mais la femme, quand même, elle n'a plus envie, donc c'est normal. Non, l'homme, il va. Et non, c'est pas ça, c'est qu'on est deux en une seule chair. Donc la femme s'adapte à la signification responsable de son mari en s'y abandonnant. Et l'homme, lui, s'adapte Le droit d'usage. C'est extraordinaire, je comprends.
Le nombre de divorces qui a causé ça.
C'est affolant. Parce que du côté de la femme, c'est ça. Je dis, non, stop, on arrête tout. Ça m'intéresse pas. Et du côté de l'homme, c'est qu'il réduit la femme à l'état d'objet, vous voyez, alors il doit respecter le droit d'usage. Il n'use pas de son corps, il use du corps de la femme. Donc ça veut dire qu'il doit utiliser, on n'utilise pas une brouette comme on utilise une cuillère à soupe. C'est sûr ça. Si vous voulez, je ne conduis pas un avion comme je conduis ma trottinette. C'est trop clair ça. Voilà, alors bon. Donc s'il a un droit d'usage, le corps de la femme, il a un rythme. Le cœur de la femme a un rythme. L'affectivité de la femme, toute la personne de la femme a un rythme. Et donc, je dois user de ce rythme. Je ne dois pas me précipiter comme un hippopotame. C'est un droit d'usage. C'est exactement le contraire, justement. Et du côté de la femme, eh ben, elle doit aussi s'adapter à son mari, c'est-à-dire se laisser adopter par son mari, s'abandonner de manière qu'il puisse vivre à son rythme l'union du corps de l'âme et de l'esprit. Vous voyez ? Bon, etc. Je passe à oui, bien sûr, il y a des tas d'autres petits problèmes qui se posent, mais bon, c'est pas le but. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on voulait regarder. Mais c'est toutes ces choses qui enrayent, qui font que c'est pas toujours facile. Il faut savoir se pardonner, bien sûr. Il faut savoir que dans le sacrement de mariage, on a un grand pouvoir de prière. Je pense par exemple, moi, voyez, un ami. Je l'ai appelé Jean-Michel, il était marié avec une petite adorable, qui s'appelle Marie. Bon. Et puis Anne-Marie, au bout de. C'était merveilleux, regardez, ils priaient tous les deux, des icônes, des vagins. C'était adorable, c'était mignon comme tout. C'était. Ils rayonnaient, bon, etc. Et puis d'un seul coup, au bout de 6 ans, Anne-Marie s'en va avec un type qui a 15 ans de plus qu'elle. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, elle est partie. Il savait qu'elle était partie avec ce garçon, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les soirs, il priait. Il passait un quart d'heure à prier tranquillement, à s'endormir. Et puis il célébrait sa messe pensale. C'est-à-dire Il se plaçait résolument à l'intérieur du cœur de sa femme, il se mettait dedans, une fois qu'il était bien installé en elle, ben il priait. Et il offrait leur mariage, leur unité sponsale à Dieu, pour que Dieu purifie leur mariage, leur unité sponsale. 9 mois après, tous les soirs. 9 mois après, Anne-Marie a sonné à la porte. Et alors, il m'a dit, elle a sonné, moi j'ai ouvert. Ah, c'était elle. Bon, j'ai pas été surpris, premièrement. Deuxièmement, j'ai eu l'impression que c'était hier qu'elle était partie pour un voyage chez sa mère. Elle est rentrée, et voilà. Et ça s'est passé. Mieux qu'avant. C'est normal, puisque vous voyez, donc il y a dans là, on doit rester fidèle. Si un autre est infidèle, je ne peux pas savoir pourquoi il est infidèle, quelquefois ça peut être à cause d'un moult, une espèce de possession. Parce qu'aujourd'hui on utilise des filtres, on utilise des trucs horribles, des trucs diaboliques, hein. Tu ne sais pas. Mais toi, en tout cas, tu restes fidèle. Vous voyez, Jean-Michel est resté fidèle. C'est ça qu'on promet. Le jour du mariage, on promet fidélité. Et Dieu ne permettra jamais qu'il y ait dans un mariage jusqu'à la mort, il ne permettrait jamais qu'il y ait une rupture de fidélité. fera toujours en sorte qu'il y en ait un qui soit fidèle. Et du coup, le mariage ne sera jamais rompu. Et du coup, il n'y aura pas de divorce. Donc s'il y a divorce, c'est parce que les deux sont fidèles. Vous voyez ? Une fois qu'on a bien repéré tous ces pièges, toutes ces glissades, que on n'avait pas prévu, on n'avait pas fait attention. Il vaut mieux y faire attention avant. C'est plus facile, parce qu'après, on s'est puni, monter la pente, quoique non, enfin bon. Enfin, c'est vrai, quelquefois, il vaut mieux aller directement au ciel. Et attends. Il vaut mieux être des saints, il vaut mieux être dans l'unité responsable, il vaut mieux réussir sa vie, sa vocation, sa mission, son humanité. Mais il ne faut pas continuer à vivre comme des serpillères et des passoires. Alors du coup, on va vers le sacrement de mariage, on vit du sacrement de mariage. Et à partir de là, on contemple aussi. Vous voyez, tout à l'heure, on s'est mis à genoux et on a adoré le Saint-Sacrement. On a adoré Jésus. Le feu de lumière et la lumière qui resplendissent sur la face de Jésus. Il est assis à la droite du Père. Il resplendit, il est là. Il va s'immoler, il va se livrer à nous. On le contemple, on le regarde. Son silence est lumineux, transformant, et il resplendit. Et bien, dans le sacrement de mariage, il faut faire pareil, évidemment. Il faut faire pareil. Il n'y a pas que le prêtre, quand même, qui adore le sacrement de l'Eucharistie. Les fidèles aussi adorent le sacrement de l'Eucharistie. Les baptisés, les croyants, tout le monde. Alors, le sacrement de mariage est un sacrement qui donc a en lui-même une présence de Jésus, divine de Jésus et humaine de Jésus et substantielle et parfaite, plus exactement transactualisée, parfaite, accomplie. À l'accomplissement de la présence de Jésus dans le sacrement de mariage, la substance du visage de Dieu dans l'Eucharistie. Et à l'accomplissement de la présence de Jésus dans le sacrement de mariage, la présence accomplie de Dieu dans Jésus, dans la résurrection qui est là. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne met pas, pourquoi est-ce qu'on ne contemple pas cet accomplissement de la présence de Jésus dans le sacrement de mariage? Ceux qui ne sont pas mariés, bien sûr, qui vont adorer Jésus dans tous les sacrements. Ils vont faire oraison pour adorer la présence de Jésus dans le baptême et sa présence dans la mission implicite du Père de Dieu et du Saint-Esprit dans leur âme. Ils vont adorer le Père avec le Saint-Esprit en vérité grâce à ça. Tous les jours, bien sûr, ils vont adorer. En s'engloutissant dedans Jésus dans l'Eucharistie, c'est évident, ils sont assumés par lui. Ils vont adorer la présence de Jésus dans le sacrement de mariage, même s'ils ne sont pas mariés. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. On termine justement le cycle. Mais c'est ce qu'on fait. Quand on regarde ce qu'il y a dans le sacrement de mariage, on regarde dans le sacrement de mariage, disons, nous, ça ne nous intéresse pas puisqu'on n'est pas mariés. Ça nous intéresse au contraire. Ça nous intéresse. Parce que dans les sacrements, si je presse le fruit d'un sacrement, il en sort un fruit. Si je presse la grappe, il en sort du vin. Surtout si je le fais bien vieillir. Dans la cave. Et alors, il y a un fruit au sacrement de mariage, bien entendu. Et ce fruit, bon, c'est un petit peu ce que j'aurais voulu regarder avec vous aujourd'hui. Alors, c'est pour ça, ici, j'ai un petit livret qui s'appelle Fruit des sacrements. Des rayons. comme du lait dans l'équipe. Partout. C'est beau ça. Là, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a là? Mais je ne peux pas adorer le Saint-Sacrement, moi je ne peux pas adorer le Saint-Issime Sacrement des mariages si ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a un sacrement, mais il y a quoi? Ah, je ne sais pas. Pardon. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le sacrement du mariage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sacrement du mariage? Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Pour qu'il y ait le sacrement du mariage, il faut d'abord, d'accord, bien sûr, mais ça, c'est... Il faut d'abord qu'il y ait la matière du sacrement, il faut qu'il y ait la forme du sacrement. Dans tous les sacrements, il y a une matière et une forme. Pourquoi? Parce que Dieu est la forme vivante de Dieu, c'est le Verbe, c'est le Fils de Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. Et il a pris chair, voilà pour la matière. Dans tous les sacrements, c'est une manière pour le Verbe de Dieu de réaliser son humanité dans une présence effective au milieu de nous, pour donner guérison, résurrection, délivrance, sanctification, transformation, assomption. Dans tous les sacrements, il y a une matière et une forme. Dans le sacrement de mariage, la matière, le pain et le vin, c'est évidemment, on l'a déjà dit, l'unité sponsale, c'est l'unité, la communion des personnes. Est-ce que c'est Jean-Michel? Il se mettait vraiment résolument en communion avec elle, du dedans d'elle, et il priait, il se mélangeait à elle, et c'est avec elle, il priait avec elle, comme elle, pour elle, en elle, et elle avec lui. Et puis voilà, et puis il offrait la présence vivante, il accueillait le sacrement, et il remerciait, il s'offrait mutuellement, au-dedans de la très sainte Trinité, dans le ciel de la Jérusalem céleste, pour qu'est-ce qui se passe quand on fait célébrer une messe sponsale? Et bien simplement, on réalise un corps commun, une chair commune, un cœur commun, une personne commune, une seule vie incarnée commune, intérieure, mais très incarnée, très... très physique aussi, c'est bien dire, bon, voilà. Et c'est le mystère de l'ascension. On pénètre dans l'éternité. Il y a une très très belle comparaison à faire avec le sacrement de lui, du prêtre. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Une personne à Christi, il s'empare de ce qu'il y a dans l'éternité de la résurrection de Jésus, au-delà du voile, et il le fait pénétrer dans le temps. Et il le fait rentrer dans le corps des gens par la bouche. Le Saint-Sacrement de mariage, c'est du dedans du corps des époux, dans la parole commune de leur unité sponsale, qu'ils font l'ascension, qu'ils s'arrachent et qu'ils pénètrent dans la procession de la Très Sainte Trinité, dans la procession du Saint-Esprit, au cœur de la résurrection de Jésus et du ciel. Donc, le Sacrement de mariage fait que on offre quelque chose de concret, de physique, de temporel, de personnel, d'humain, de communion, on le plonge dans l'éternité. Tandis que dans le sacrement de l'ordre, le prêtre, lui, c'est un autre sacrement. Il fait pénétrer l'éternité par le temps. Tandis que le sacrement de mariage fait pénétrer le temps, l'instant présent de notre unité sponsale, dans l'éternité. Et emporte, du coup, avec lui, évidemment, le temps. Et tous ceux qui vivent ce temps-là, sur la terre, dans l'éternité. Ça, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui fait qu'il y a une matière et une forme. La matière, c'est l'unité des deux. Et la forme du sacrement, c'est qu'il y a ce côté un peu transcendant. Cette ascension dans l'éternité. Cette pénétration dans l'éternité. C'est Emmanuel qui me disait, quand on fait le signe de croix, quand on fait le signe de croix, est-ce qu'on ne peut pas dire que le vertical, ça représente l'être, l'existence, et l'horizontal, ça représente la vie? Et parce que la vie et l'être, c'est pas la même chose. J'existe, c'est transcendant, la vie, bon, c'est moi qui vis, j'ai une âme. Non, la distinction entre l'être et la vie n'est pas symbolisée par le signe de croix. Et par contre, il y a quelque chose de transcendant dans le sacrement de mariage, ça c'est vrai. Et il y a quelque chose de vivant dans le sacrement de mariage, c'est la matière et la forme. La matière, c'est l'unité sponsale divine, hein, divine et divinité surnaturelle par la grâce. Il y a quelque chose de vraiment divin. Et au cœur, il y a cette unité sponsale qui, elle, est ouverte à la transcendance, à la présence du Créateur. à la présence de l'instant éternel de Dieu.
Alors,
on offre, et c'est l'offertoire. Et si, une fois qu'on est entièrement livré à Dieu, on reçoit, on va chercher au ciel du sacrement, le sacrement de mariage, on va chercher au ciel du sacrement la présence réelle de Jésus, qui s'unit, son épousée, la présence réelle de notre Père, qui s'unit, son épouse, au ciel éternellement. Et je reçois le sacrement. Et dans le sacrement, il va y avoir une présence réelle, et ce sera porté dans notre unité. C'est pour ça que je suis en train de vivre dans cette fameuse offrande. Et je vais communier à cette nouvelle présence, à cet accomplissement. Parce que mon unité, mon signe de croix de la sponsabilité revient avec une croix glorieuse, mais une croix avec une résurrection de la sponsabilité venue du ciel. Un accomplissement. Notre unité n'est pas absolument, infiniment, irrésistiblement, éternellement parfaite, puisqu'elle est temporelle, elle a ses limites. On a un capital de vie qui est limité. Mais dès que je vis le sacrement, je peux toucher la perfection de tout ce qui peut être communion des personnes à l'intérieur de Dieu, dans l'intériorité de mon corps, uni à cette unité sponsale, dans le sacrement du mariage. Voilà pourquoi nous disons que ce qui correspond à la consécration, nous l'appelons transactuation surnaturelle sponsale du sacrement du mariage. Parce que la perfection de tout ce que nous faisons à l'état pur dans l'unité sponsale en s'offrant à Dieu pour recevoir du dedans au sacrement de mariage d'une nouvelle manière plus parfaite encore, réalise une transformation de la perfection mutuelle qui est la nôtre, surnaturellement et sacramentellement. Et donc, on passe d'une perfection, d'un acte énergéia, à une nouvelle perfection, un nouvel acte énergéia, qui cette fois-ci est à conjoint l'éternité et le temps. Figurez-vous que quand même, il y a au ciel, il y a en Dieu, des communions de personnes qui sont absolument parfaites, infinies, inépuisables. Et évidemment, puisqu'entre la première et la seconde personne de la très sainte Trinité, cette communion sponsale est tellement forte qu'elle produit Dieu lui-même dans l'éternité avant la création du monde. C'est cette production qui se trouve présente dans l'unité de mon corps, offert sacramentalement. C'est une transplantation de notre perfection mutuelle qui, sans supprimer notre perfection mutuelle, dedans, c'est une, vous voyez, qui s'inscrit dedans, sans la supprimer. Et donc il y a vraiment une transactuation, c'est un transaccomplissement, si vous préférez, une transperfection. Une transposition de la perfection. Et Luther disait à propos du sacrement de l'Eucharistie, en disant, mais quand on célèbre la scène, la sainte scène, il n'y a pas transubstantiation, il y a impanation. C'est-à-dire que Jésus, en raison de notre foi, vient se rendre présent à l'intérieur du pain. Il s'est mis dedans. Et bien, non, Martin, tu t'es trompé. C'est pas une impanation, c'est une transubstantiation. C'est plus du pain. C'est plus du pain, c'est le corps du Christ. C'est toute la divinité, tout le corps, toute l'humanité du Christ qui est là. Substantiellement. Tandis que dans le sacrement de mariage, c'est une impanation. On serait concilié avec Luther d'un seul coup. Dans le sacrement de mariage, c'est une impanation, parce que dans l'unité sponsale, la perfection de la production du Saint-Esprit à partir de l'unité du Père et du Fils vient s'inscrire dans le pain, dans la nourriture, dans l'unité sponsale offerte et sanctifiée de l'homme et de la femme. C'est une impanation. C'est pas une transubstantiation, mais du coup ça donne une perfection à cet amour mutuel, puisqu'elle est en conjonction et en harmonie et en relation physique directe sans voile avec la production du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que la production du Saint-Esprit à partir de l'unité de l'homme, de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire de la première et de la seconde personne de la Sainte Trinité. Il y a aussi toutes les autres mariages spirituels des saints. Il y a tout. Il y a par exemple l'unité tout à fait extraordinaire qu'il y a entre Jésus et Marie dans la résurrection. Le nouvel Adam et la nouvelle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ici, vous voyez, on n'est pas dans le fruit du sacrement. On est dans qu'est-ce qu'il y a dans la présence réelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la présence réelle du sacrement de mariage. Et il y a une multitude d'unités sponsales divines. L'unité entre le Père et le Fils, entre l'époux et l'épouse, première et seconde, c'est une unité divine. Elle est sponsale. L'unité qu'il y a entre le nouvel Adam ressuscité et la nouvelle Ève ressuscitée dans l'Assomption, c'est une unité divine. C'est sûr. L'unité future entre tout mystère de la résurrection, du trône, et de toute la création, dans une unité sponsale totale pour produire le ciel, nous est donnée à l'état de germe, présence réelle, dans notre unité sponsale sacramentelle. Il y a beaucoup de présence réelle, mais ce qui fait la communion, l'équivalent de la communion à la présence réelle du sacrement du mariage, ce qui est la finalité du sacrement du mariage, son accomplissement, sa surabondance, son action de grâce, c'est quand je vais recevoir toutes ces unités sponsales divines éternelles, toutes ces unités sponsales divines glorieuses et surnaturelles, et toutes les unités sponsales saintes, en l'unissant à notre unité sponsale à nous et à tous les autres sacrements de mariage réunis sur l'ordre de la terre, pour faire l'unité entre toutes ces unités sponsales différentes. La transactation surnaturelle sponsale nous donne comme un pouvoir d'assimilation, de contemplation, d'incorporation de toutes ces unités sponsales différentes pour réaliser l'unité de toutes ces actuations sponsales surnaturelles, incréées, glorieuses, divines et théologales. Donc l'objet du sacrement de mariage, finalement, est un très grand mission. C'est elle qui fait l'unité. C'est à partir de la terre que l'unité va se faire entre la procession de la Très-Sainte Trinité, la résurrection de la gloire, le nouvel Adam, la nouvelle Ève, et aussi l'unification de tous les mariages spirituels de tous les saints avec tous les fruits du sacrement de la terre. C'est donc qu'il y a là, dans le sacrement de mariage, quelque chose de très très fort, puisque c'est ce qui va faire la conjonction eschatologique, la fin, la finalité, la récapitulation de tout ce qui est amour réel. D'accord ? Vous voyez ça ? Si vous voulez lire, vous le direz ça, c'est très joliment. Mais je voulais vous lire un petit passage quand même. Oui, je vais relire, comme ça on va voir si je m'étais trompé la dernière fois. La grâce du sacrement. Vous pourriez inventer, que vous aimeriez ou pas, des prières comme celle-ci, sous l'inspiration du Saint-Esprit, portée par l'Esprit Saint. Et vous avez prié: Seigneur mon Dieu, je vous offre toute mon humanité intérieure. Et tout mon mariage spirituel, toute ma transformation surnaturelle, avec tout ce dont je suis la moitié sponsale, qu'elle soit divinisée, sanctifiée, qu'elle soit remplie de toutes les forces et de toutes les puissances d'éternité qui sont en vous dans le monde nouveau. La grâce du sacrement d'un prêtre consiste à mettre l'éternité dans le temps, c'est ce que je disais. Mais la grâce de la fécondité personnelle, la sanctification personnelle, sacrement de mariage, consiste à transplanter actuellement dans l'éternité votre corps sponsal accompli dans l'unité de Dieu. Votre corps qui, lui, est dans le temps. L'homme n'est plus seulement où Dieu pénètre dans l'homme, mais l'homme pénètre également en Dieu. Dieu pénètre dans l'homme. L'Eucharistie. Et voici venir le jour où l'homme pénètre en Dieu. Transactation surnaturelle responsable. Dieu pénètre en l'homme, c'est le prêtre qui fait cela dans le sacrement de l'ordre. L'homme pénètre en Dieu, c'est le sacrement de mariage qui le réalise. Mais pourquoi il faut parler de cette vie ? Faut pas prendre la pilule parce que la pilule c'est pas éthique, c'est pas moral, ça n'a rien à voir. Parce qu'on saccage tout. C'est tout à fait différent, parce que du coup, c'est impossible de réaliser notre mission. L'éternité dans le temps, c'est l'Eucharistie. Presser le fruit de la transactuation surnaturelle sponsale du sacrement de mariage, c'est faire entrer toute notre humanité à travers l'humanité intégrale, surnaturalisée, transactuée, notre sacrement de mariage, de notre corps mutuel, le transplanter dans notre corps spirituel, présent en germe dans la résurrection du Christ et de la Vierge Marie, glorifié et assumé. C'est faire rentrer notre mutuelle perfection divinisée par le sacrement dans le corps de résurrection qui sera notre éternité et qui fait partie du corps de résurrection de Jésus entier et vivant. C'est faire rentrer toute notre humanité dans notre corps spirituel, dans l'état dans lequel il sera dans la résurrection et d'en vivre, voilà la communion. Il y a à ce moment-là des guérisons, des illuminations, des péchés qui sautent, des fils qui se coupent, des fécondités qui s'ouvrent. La très sainte Trinité se trouve d'un seul coup, tout à fait, tout à fait libre à l'intérieur de nous et en train de nous. Voilà, donc vous lirez. Hein, il faut contempler la transaction sur naturelle comme ça. Il faut, avec, pas tout seul, mais avec la signification pensale de mon corps, si je ne suis pas marié. Et si je suis marié, évidemment, beaucoup plus, puisque j'en suis source, par le sacrement qui m'a été déposé entre mes mains pour que j'en use le droit d'usage du sacrement. Pour que j'en use. C'est avec, dans mon mariage spirituel, avec toute la moitié sponsale et perdue dans l'unité des deux, que je me laisse contempler ce qui se passe dans le sacrement de mariage, dans cette unité transactuée de toutes les unités sponsales agréées, éternelles, glorieuses, divines, surnaturelles et sacramentelles. Prenez par exemple. Prenez par exemple, vous avez l'admirable ascension de Jésus. Il laisse Marie, il laisse son épouse au pied de l'arbre de la croix. La nouvelle Ève. Combien de fois elle a dû célébrer la transactation sur notre responsable, mystiquement. Elle n'était pas mariée. Sacramentellement. Combien de fois ? C'est affolant. Elle a vécu cette transactuation sur notre réponse jusqu'à la dormition. Jusqu'à la dormition. La dormition, elle entre dans un état de torpeur. Son amour battait au même rythme que le cœur de Jésus, qui était ressuscité. Et quand Jésus ressuscité, battait au même rythme que le cœur de Marie dans la dormition. Et en fait, il n'y avait qu'un seul battement cardiaque, si je puis dire, glorieux et temporel, éternel et temporel à la fois, avec un amour semblable, d'affinité, dans un cœur d'unité sponsale parfaite, dans une humanité intégrale, qui n'était ni homme, ni femme, ni Jésus, ni Marie. C'était un seul amour, incarné, glorieux et saint. Voilà la dimension. Voilà la dimension. C'est quand même inouï ce qui s'est passé. Alors, d'un seul coup, vous savez, un petit peu comme si d'un seul coup, un bouton, vous voyez, un bouton s'ouvre et le soleil est là-haut. C'est ce qui s'est passé à la dormition. Ça y est, elle est en infinité totale de l'intérieur, Jésus aussi de l'intérieur, mais seulement, d'un seul coup ça s'ouvre, ce qui s'est passé à l'Assomption, comme un bouton de fleur. C'est ouvert à l'intérieur d'elle. Il y avait le soleil de Jésus, de son unité sponsale dans le ciel. Et c'est comme si elle était partie s'envoler pour assimiler le soleil. C'est ce qui s'est passé, la dormition. Elle est venue manger le soleil de son unité sponsale glorieuse, et donc elle a été assumée. Elle a été assumée. Et ce qu'il y a tout à fait extraordinaire, c'est que Jésus, assis à la droite du Père, c'est parce qu'il l'épouse. Il n'a pas cessé de vivre cette unité sponsale immaculée avec la nouvelle, sans arrêt, avec les sacrements, avec la transformation, avec une transactuation sur l'être responsable, ça c'est clair, mystique, c'est évident, mais bien réel. Et lui, il ne sait plus à mettre dans l'humanité de Marie, dans la sainteté, la plénitude de sainteté de Marie, toute la gloire de sa personne divine. La gloire de sa personne divine, c'est la gloire de lui, il est épouse, il ne faut pas l'oublier, comme, en tant que Dieu, en tant que personne divine, il est féminin. Et il ne sait plus à se préparer à lui-même, personne divine féminine, dans le sein du Père, qui est épouse, à préparer en Marie quelque chose qui soit adapté dans l'unité glorieuse de la résurrection de la chair, à sa propre personne, pour vivre l'aspiration du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé, il faut le contempler ça, il faut contempler cet instant incroyable, justement, qui est objet de notre foi, donc il n'est pas incroyable. Donc il n'est pas du tout incroyable, il est croyable, c'est notre foi. Où Marie, glorieuse, est au-delà de l'unité sponsale avec Jésus ressuscité, la gloire du Verbe de Dieu dans la chair. Elle est la gloire de l'épouse, de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Jésus est une semence de résurrection pour Marie. La résurrection de Jésus n'est pas la résurrection féminine de l'épouse en Dieu. Alors, il faut comprendre ça. Ça se contemple, ça. C'est pas seulement des mots, évidemment. Il faut vivre ça avec tout ce qu'il y a de parfait dans notre unité d'amour, parce qu'il dépasse dans un amour avec tout ce que l'on aime à la perfection et de qui on est aimé. On est aimé par le mariage spirituel de l'oraison, par exemple. Si on arrive au bout, si on arrive à quelque chose d'au-delà de notre mariage spirituel, c'est ça qu'on touche. Et avec ça, on utilise le fruit du sacrement de mariage qui est sur la terre pour venir nous installer dans le corps spirituel de résurrection et assister à ce mariage, à cette assomption, à l'intérieur de la résurrection de Jésus, qui de l'intérieur se laisse prendre par le petit bouton, qui est entièrement brûlé par le soleil de la résurrection, et qui devient le bouton du Verbe, qui devient la fleur du Verbe. C'est la vocation de Nazareth. Nazareth, c'est la fleur, en effet. La fleur qui s'épanouit. Nazareth n'a de signification que par rapport à l'Assomption, au niveau sémantique. Mais c'est beau de comprendre ça. C'est pas seulement beau, c'est aussi l'adoration du sacrement de mariage. J'adore quand je contemple ce mystère de l'Assomption, et à partir de la résurrection, de ce qui dépasse l'unité des deux dans la chair glorieuse du nouvel Adam, j'assiste de deux en deux dans une espèce d'impanation glorieuse. la procession du Saint-Esprit. Et donc j'ai bien l'unité, une transactation surnaturelle et l'unité de toutes les sponsalités surnaturelles, divines, sacrées, créées, saintes, qui s'y trouvent. Je le contemple, je l'adore, comme j'adore le Saint-Sacrement de l'autel. Je l'adore. Et si je l'adore, si je le comprends à ce moment-là, ayant communié, sans être séparé de tous ceux avec qui j'y communie, je peux faire la fameuse action de grâce pour que tous les amours soient unis les uns aux autres dans une harmonie parfaite. Et avec tout ce qui a soif d'amour dans la création, puisque tout être est soif de gloire de Dieu. Et donc je vis à ce moment-là le fruit du sacrement de mariage. Et une fois que je surabonde de ce fruit du sacrement de mariage, je me sanctifie. Le Saint-Esprit est libre. L'unité du Père et du Fils sont libres en moi et dans toute création glorifiée, en puissance et en acte. Et du coup, je peux reprocréer chacun de mes enfants dans cette unité d'amour à créer et créer en même temps pour les sanctifier, pour les délivrer, pour les faire grandir. Je peux aussi, bien sûr, célébrer tous les effets que vous imaginez de ce grand mariage, de délivrance, de libération, de reconstruction, de miséricorde et de pardon. C'est mystique, vous voyez, c'est pas parce que c'est mystique que c'est éthérique. Parce qu'il y en a qui confondent mystique et éthérique. C'est mystique, mais c'est physique. Parce que c'est réel. C'est une présence réelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.